le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter. Alors à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Chanter en travaillant, se tenir ensemble, rythmer la tâche à l'unisson, corps et rythme et voix. Chanter pour se donner du cœur à la tâche, garder la cadence, faire corps, se fondre. Et puis l'air de rien, dire, déposer, partager ses peines, ses révoltes, ses colères, et puis travailler encore, et tant et plus, en chantant. Petit, on a tous connu les journées de marche interminables, en troupeau de mouflés, en train de se scander à l'unisson, 1 kilomètre à pied, ça use, héritage d'un fameux chant de Bidas qui venait là pour rythmer nos marches enfantines dans ses colos, portés par un souffle puissant d'éducation populaire, et puis on y allait à pleine voix. Dans la troupe, y a pas de jambes de bois. Mais moi, je me souviens que ça marchait. Un temps. Le chant abolissait le temps. La douleur, l'impatience, on était ensemble. Reliés, fondus dans le rythme. La lancinance, chanter en travaillant. À l'école, on annonnait l'alphabet, les tables de multiplication, et là, le chant nous apprenait. Il incrustait dans nos mémoires les sommes à apprendre. Et puis plus tard, au sein des manifs, j'ai commencé à entonner mes premiers chants d'émancipation. Des chants pour se tenir ensemble, encore et encore. Et par lesquels nous devenions jour de colère, jour de révolte et de rire partagé ensemble. Depuis toujours, le chant rythme le labeur. À l'unisson, jadis, le travail d'aujourd'hui a englouti les chants d'hier dans le bruit cadencé des machines, et puisque son temps menace de s'allonger encore et toujours, alors sifflons tous en chœur. Étienne Bourg est un journaliste belge. Il est conseiller artistique, écrivain, conférencier, producteur et formateur. Et il a publié dans Cairn un article sur le chant de travail à travers le monde, dans lequel je suis allée puiser quelques traits que je vous livre au fil de cette émission. Partout dans le monde, on a connu le chant de travail. soit une expression directement liée à la tâche et qui est destinée à rythmer celle-ci, à scander les efforts, soit un ensemble de chants qui ont pour but de commander et de diriger les opérations. Dans ce cas, le chant est souvent divisé entre un leader et le groupe qui lui répond. Il se peut également que le chant n'ait d'autre but que de faire passer le temps pendant un labeur monotone, répétitif. On chante pour rendre ce travail plus agréable ou pour le meubler avec ce qui passe par la tête de là ou des personnes qui chantent. Certaines activités demandent systématiquement l'exécution de certains chants ou de certaines musiques. C'est le cas des chants des pagayeurs de plusieurs groupes humains. Chez les Are Are des îles Salomon, lors de longs voyages en pirogue, des chants précis servent à invoquer les requins et à demander un voyage heureux à leurs esprits protecteurs. Tandis qu'une dizaine de rythmes permettent de rompre monotonie et lassitude dans la tâche des pagayeurs. Chez la plupart des cultivateurs, les différentes phases des travaux au champ ont souvent été accompagnées de chants ou de musique, destinés à accompagner le travail, mais aussi, éventuellement, à ritualiser le moment. Les chants de sarclage, des aborigènes, sont des exemples types de cette double fonction. Ils accompagnent la tâche, mais ils en soulignent aussi certainement le caractère sacré. De plus, chantés en polyphonie, ils accentuent le caractère communautaire du travail et du système même des cultures et des récoltes. Les exemples sont également nombreux en Afrique. Dans la société mandingue, les batteurs sont souvent appelés pour encourager des travaux de défrichage ou de sarclage autant que pour les rituels de fertilité. Certains rythmes joués au djembé sont spécifiques à ces activités. N'oublions pas que les traditions de chants de travail africains sont probablement en partie à l'origine des chants accompagnant divers travaux lourds dans les communautés afro-américaines. Que ce soit à l'époque de l'esclavage ou plus récemment dans les pénitenciers du sud des États-Unis. Chant et travail peuvent donc être associés de façon multiple. de très nombreux champs de pilage de mil, millet, noix de karité ou autres céréales sont des chants qui accompagnent au rythme le travail. On constate souvent qu'en Afrique, les champs n'ont pas un rapport direct avec le pilage. Les femmes qui font ce travail en profitent pour chanter les louanges des uns et des autres ou pour dialoguer entre elles, se livrer à quelques moqueries ou encore à des réflexions graves sur des sujets aussi actuels que le sida. Tandis qu'en d'autres endroits, notamment dans le Yunnan chinois, les chants de décortiquage du riz utilisent des paroles qui n'ont pas de sens précis parce que leur rôle est de rythmer le travail, pas de véhiculer un sens quelconque. Parfois, la tâche ne s'accomplira pas sans cette dimension chantée. Par contre, dans certains types de chants de filage, la relation entre le chant et le travail n'est pas nécessairement aussi complémentaire. C'est le cas par exemple chez les Dorzé d'Éthiopie, qui pratiquent de superbes polyphonies pour les différentes expressions liées à leur calendrier. Lorsque les jeunes filles se rassemblent les soirs d'hiver pour filer le coton, elles en profitent, pourrait-on dire, pour chanter en chœur. On est alors face à un répertoire dont les objectifs sont divers. Seule une partie a un lien de cause à effet avec le travail lui-même. Le reste est chanté à l'occasion de ce travail pour l'accompagner, l'agrémenter et occuper l'esprit des jeunes travailleuses, mais ce faisant, elles entretiennent un répertoire. On peut comparer cette façon d'utiliser divers chants traditionnels pour accompagner certaines tâches saisonnières ou quotidiennes avec des pratiques propres aux sociétés rurales. On pense notamment au Sedenka. Séance de travail entre femmes et jeunes filles les soirs d'automne, en Bulgarie. En pratiquant des petits travaux de couture, broderie, filage, cardage, souvent faits sur le porche des maisons, les travailleuses entonnent divers chants qu'elles échangent éventuellement avec les garçons qui viennent leur rendre visite. Une écoute attentive de la riche discographie consacrée aux musiques dites du monde montre que ce genre de pratique est extrêmement courant, tant dans sa dimension traditionnelle que dans sa dimension de sauvegarde, si la mécanisation a rendu le répertoire inutile. On y trouvera aussi nombre de musiques liées aux activités pastorales, depuis la garde des troupeaux par les bergers jusqu'aux travaux saisonniers comme la tonte des moutons, les montées et descentes aux alpages, les transhumances saisonnières.
Le capitaine de Saint-Malo,
hourra, mais ouais, hourra,
qui fait la pêche au cachalot.
La
viande
Un autre répertoire qui fut d'une richesse incroyable est évidemment celui des marins et des pêcheurs. Les chants de manœuvre sur les bateaux à voile constituent un répertoire commun à divers types d'utilisation des navires. Comme beaucoup d'autres gens, dont le métier conditionne la vie au quotidien, les pêcheurs chantent et transmettent leur univers par la ballade ou par des chansons poétiques. Les campagnes de pêche bretonnes vers les eaux islandaises ont aussi donné naissance à un répertoire spécifique. Toutes activités récurrentes dont la chanson a gardé la trace. Parce que, évidemment, là aussi, le temps a fait son œuvre. Poussé par le progrès, et la navigation autant que la pêche ont profondément évolué, ne laissant plus la moindre place aux chants et aux musiques de bord, si ce n'est éventuellement dans les moments de détente. Mais le répertoire est bien gardé par les chanteurs du monde entier, qui en aucun endroit ne veulent oublier ce qu'ils représentent. Il est vrai qu'à bien écouter ces chansons d'horizons très divers, on y trouve toujours la peur du danger, la force sauvage de la mer, l'angoisse des épouses, leur longue attente, les récits de catastrophes, mais aussi ceux de pêches fructueuses ainsi que des histoires de piraterie. Chansons de travailleurs. L'industrialisation et la mécanisation bouleversent les données de la relation au travail. Et on se trouve à un moment donné, face à des villes ou à de grands sites industriels où se rassemblent des populations qui se partagent des travaux dont les conditions peuvent être bruyantes, harassantes et contraignantes jusque dans les possibilités d'expression en cours de tâche. En d'autres termes, il devient impossible de chanter en travaillant. Mais il est par contre toujours possible de s'exprimer pendant les phases d'arrêt ou après le travail. Le chant de travail proprement dit, c'est-à-dire celui qui scande la manœuvre ou la tâche, va disparaître au profit d'un chant et d'un répertoire de classe ou de métier. C'est-à-dire un ensemble de chants qui expriment et véhiculent les préoccupations de tel corps de métier, ses conditions de travail, sa lutte sociale, son univers de travail et son environnement de vie. Chanter en travaillant ou chanter sur son travail et sur la communauté des travailleurs est une des pratiques les plus importantes de ce qu'on appelle aujourd'hui musique du monde. Et les exemples sont innombrables. Et il est plus que probable que jamais cette fonction essentielle de la chanson populaire ne se tarira. Dans la société occidentale, le monde rural a longtemps fait partie des derniers lieux d'un possible lien direct entre chant et travail. Lorsque celui-ci se mécanise ou s'industrialise, la machine l'emporte sur la voie humaine et celle-ci se tait. Le chant de travail, celui qui scande ou qui accompagne la tâche, fait alors place à d'autres chants ou chansons qui parlent du travail ou qui restent irrémédiablement liés à son contexte, mais qui sont pratiqués en dehors des phases de labeur, soit à la pause, soit le soir à la veillée. Partout, la mécanisation a mis certains répertoires en danger. Des chants disparaissent, faute d'être pratiqués. À moins, comme c'est le cas en Italie, d'être chantés pour le plaisir de garder un lien avec la tradition et l'histoire.
À la mattina, appena alzata,
les femmes de la plaine du Pô, en Italie, ont toujours travaillé à l'arrachage des mauvaises herbes dans les rizières. Elle le faisait en chantant un répertoire polyphonique qui abordait souvent les conditions de travail, voire même certaines revendications sociales. L'arrivée massive des désherbants a rendu ce travail inutile. Et les mondines, nom que l'on donnait à ces femmes, n'ont plus travaillé aux rizières, mais elles ont cependant conservé ce répertoire.
Bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve a lavorare.
En 1905 et 1924, les sardinières, ouvrières de conserverie de poissons de Douarnenez et Concarneau, initient une série de grèves pour protester contre la pénibilité de leurs tâches et demander une augmentation de salaire. Cette grève est considérée comme une date importante des luttes féministes en France. Leurs champs de travail deviennent des champs de révolte. La journaliste et chroniqueuse sur France Musique Aliette Delalleux leur a consacré une belle chronique que voici.
Au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers.
La ville bretonne de Douarnenez compte au début du XXe siècle une vingtaine de conserveries de sardines, des usines où ce sont les femmes qui s'occupent de faire frire et de mettre en boîte les poissons fraîchement pêchés. C'est un métier colossal, mais surtout très mal rémunéré. Les sardinières demandent alors une augmentation de 20 centimes sur leur maigre salaire horaire pour arriver à 1,25 francs de l'heure.
Tellement qu'on avait crié 25 sous, on aura que notre gorge était irritée et tout après. On avait été obligé d'aller tout au médecin.
La grève des sardinières débute le 20 novembre 1924. Elle est suivie par les marins, par les ouvriers et elle est soutenue par le maire communiste de la ville, Daniel Leflanchec. Ce n'est pas un détail, puisque la ville de Douarnenez est la première municipalité à devenir communiste en France. La lutte est une lutte ouvrière contre le patronat, mais c'est aussi une lutte politique. D'ailleurs, la ville est envahie par les chants révolutionnaires.
Le voilà, regardez sur la foule immense qui bouge. Il jette ses flots empourprés. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier.
Dans cette grève des sardinières, le chant est omniprésent. Déjà à l'usine, les peines sardines chantent tout le temps. Peines sardines, c'est le nom donné à ces ouvrières en raison de leur coiffe qui ressemble à des têtes de sardines. Et têtes de sardines, en breton, ça se dit peines sardines. Elles chantent tout le temps pour se donner du courage, pour supporter l'odeur de la friture, le rythme effréné jusqu'à 72 heures par semaine et un travail debout. Elles chantent des chansons d'amour, des chansons légères et même des chansons grivoises.
On disait les prières et après les prières, c'était les vilaines chansons qui venaient, quoi, et qui nous faisaient rire. Là, dans sa culotte, un petit fusible, oh maman.
Plus la grève dure, plus la lutte s'intensifie. En décembre, l'enjeu devient national. Le maire est suspendu de ses fonctions, les négociations deviennent impossibles. La ville s'organise alors pour aider les grévistes avec notamment la mise en place de soupes populaires. On se rassemble, on lutte, on chante, notamment une des chansons devenues emblématiques de cette grève historique, « Saluer, riches
heureux ». Ceux sont eux qui gagnent les millions. Saluer, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluer, ce sont eux qui gagnent vos millions. Mais ça a été défendu après. On n'avait pas le droit de chanter ça dans les usines, hein. Oh, là, taisez-vous.
Ce chant est plus ancien, il n'a pas été inventé pour ce conflit. Il ne parle d'ailleurs ni de Sardine ni de Douarnenez, mais résonne fort pour les grévistes. La lutte prend un tournant le soir du Nouvel An. Le maire, le Flanchec, est installé dans un bistrot et il reçoit une balle en pleine gorge. Plusieurs personnes sont blessées, il n'y aura aucun mort, mais cet attentat raté va signer la résolution du conflit, puisque quelques jours plus tard, le 8 janvier 1925, après 46 jours de grève, les sardinières obtiennent enfin ce qu'elles voulaient, une augmentation de 20 centimes de leur salaire horaire.
La face blême et fatiguée encore, où s'en vont-ils se rendre aux ateliers, petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent.
Chanter, chanter pour s'unir, pour tenir. Chant racine, chant colère, chant lutte des classes. Puisque le travail promet encore quelques heures tenaces, le chant de travail a de beaux jours à nous offrir. Alors, haut les cœurs! Pour fabriquer cette émission, il m'a fallu choisir. Couper, chercher quelques raccourcis tellement le sujet est vaste et passionnant. Vous pourrez bien sûr retrouver les références aux musiques, aux articles et aux extraits sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour cette saison. Je remercie Pauline Lemaire des Marais pour la réalisation et on se retrouve à la rentrée pour une prochaine série d'émissions sur les ondes de Radio-La.